voix marseillaise.
À l'occasion de la récente sortie de son livre Marseille interdite 1878-1943, histoire du quartier réservé aux éditions de la Manufacture de Livres, je reçois son auteur Martin Huc. Vous êtes chercheur indépendant, au départ spécialisé dans le banditisme français. Longtemps vous avez animé un blog fort bien documenté qui s'intitule « Un peu d'histoire du milieu français ». Et depuis quelques années, vous avez orienté votre recherche sur le quartier réservé qui se situait en gros derrière la mairie centrale Quai du Port. Il occupait environ un tiers des vieux quartiers marseillais qui ont disparu en février 1943, détruits par les Allemands, avec la complicité des autorités locales et le régime de Vichy. La fosse, autre terme pour désigner ce quartier consacré principalement à la prostitution, a vu le jour en 1878. Dans un périmètre de 300 mètres sur 100, des dizaines de maisons closes, bouges, hôtels, cafés et autres établissements plus ou moins fréquentables cohabitaient. Une foule bigarrée aux origines différentes, aux histoires singulières, déambulait quotidiennement dans cette zone, aux ruelles étroites et à la misère criante. Pendant 65 ans, ce quartier fera fantasmer les Marseillais des autres quartiers, mais aussi les étrangers, comme on dit à Marseille, les artistes, écrivains, cinéastes, tant il a charrié au cours de son existence des tas d'anecdotes et d'histoires, vraies ou fausses. Durant cette émission, on va plonger dans les briques, un autre mot pour désigner le quartier réservé. Avec vous, Martin Huc, vous qui venez, je le rappelle, de publier une somme sur ce sujet, 400 pages, j'ai l'impression que vous avez lu tout sur le quartier réservé.
J'ai essayé en tout cas, j'espère y avoir réussi. Mais on trouve toujours des nouvelles choses au fur et à mesure de ces recherches, donc je pense que le sujet est inépuisable, quoi qu'il en soit.
Alors pourquoi vous avez eu envie de consacrer 3 années à ce quartier réservé ?
Déjà, le sujet, je l'ai trouvé passionnant. Et au fur et à mesure de mes recherches, je trouvais de plus en plus de sources qui m'ont de plus en plus intéressé. Que ce soit dans les journaux, la littérature et autres, c'est quelque chose qui m'a attrapé. Et j'ai plus réussi à en sortir par la suite. Notamment le fait aussi que c'est une histoire très peu connue. Moi, j'ai découvert tout ça un peu par hasard au départ. Et je trouvais ça passionnant et dommage que le grand public ne soit pas au courant que ceci a existé à Marseille par le passé.
Est-ce que l'histoire de Marseille vous a toujours passionné ? Vous êtes vous-même Marseillais ?
Aixois, mais donc je regardais Marseille de loin. Aix, c'est un peu l'antithèse de Marseille, si on veut. Mais c'est une ville, du coup, qui m'a toujours beaucoup attiré, on peut dire, un petit peu fasciné, quoi.
Et dans ces quartiers, est-ce qu'il y avait des points particuliers qui vous accrochaient ou qui vous ont accroché ?
Bah, déjà, le cosmopolitisme. On pense que c'est souvent une chose assez récente, en fait. On se rend compte que déjà au 19e siècle, à Marseille, c'était très présent, et même avant, en réalité. Et après, tout ce monde un petit peu mystérieux de la pègre, le monde un petit peu caché, on va dire. Pas que de la pègre, aussi des simples habitants d'origine italienne ou autre. Et il y avait tout cet univers un petit peu en marge, la marginalité du vieux port. Et c'est ça principalement qui m'a attiré au départ.
Est-ce que vous-même, vous avez des origines un peu aussi cosmopolites ?
Pas tellement franco-français, Cévennes et Bretagne. Mais ma famille italienne, donc peut-être que ça joue.
Ouais. Alors, 1878-1943, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux dates, le début et la fin de ce quartier réservé ?
La création, donc c'est le 13 octobre 1878. En fait, depuis 1821, la ville de Marseille avait décidé de réglementer la prostitution avec un règlement du service des mœurs qui évoluait au fil des années avec des articles supplémentaires. Et le 13 octobre 1878, il y a un nouveau règlement qui a été publié qui stipulait que la prostitution légale devait se limiter à une quinzaine de rues dans les vieux quartiers, donc qui était à peu près, comme vous avez dit, derrière l'hôtel de ville. Et c'était uniquement dans ce secteur-là que la prostitution était légale et pouvait se faire à la fois sur les trottoirs, dans les établissements, partout ailleurs, elle était clandestine. 1943, c'est la destruction par les nazis, qui est arrivée brutalement, mais qui est en fait quand même un vieux projet marseillais qui date même du 19e siècle, où depuis très longtemps on pensait à raser les vieux quartiers, parce qu'ils étaient insalubres, ils avaient une mauvaise réputation et toutes ces choses. Donc il y avait cette idée qui était quand même dans l'esprit des édiles marseillaises. On en parlait beaucoup à Marseille. On savait que les vieux quartiers n'allaient pas faire long feu. Mais quand les nazis sont arrivés, ils sont arrivés avec leurs méthodes à eux qui sont plus radicales que les méthodes habituelles.
Est-ce qu'on peut revenir sur la population qui vivait plus globalement dans ces vieux quartiers, donc Saint-Jean, Saint-Laurent, La Tourette ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens ? Ils se sont installés là à partir de quand? Je crois savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était un quartier bourgeois, avec des hôtels particuliers.
Marseille était beaucoup plus petite à cette époque-là. Et donc c'était un quartier bourgeois et populaire à la fois, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de mixité sociale. Et en fait, les bourgeois vivaient à côté des pauvres. On pouvait avoir un hôtel particulier accolé à un immeuble habité uniquement par des manouvriers ou par des marins. Par la suite, quand la ville s'est étendue vers le sud avec des quartiers beaucoup plus modernes et beaucoup plus chics, la bourgeoisie a eu tendance à sortir du quartier pour aller dans des quartiers qui lui étaient dédiés et qui correspondaient plus à ses aspirations. Et c'est là où les vieux quartiers sont vraiment paupérisés, où les pauvres sont retrouvés entre pauvres. Il y a d'abord eu des vagues d'immigration venues de Provence, ce qu'on appelait les gavots, puis petit à petit, énormément d'Italiens, principalement de Gênes, par la suite de Naples, puis de Sicile, Sardaigne, Toscane, etc. Et ça donnait un quartier très pauvre, mais où il y avait une vraie, de ce que les anciens habitants disent en tout cas, une vraie convivialité, quelque chose de très familial, où tout le monde se connaissait, une entraide, une solidarité, etc., dans ces vieux quartiers.
Et donc les populations un peu pauvres d'origine immigrée qui venaient à Marseille avaient ce réflexe d'aller s'installer dans ces quartiers-là parce qu'on leur avait aussi dit que, un peu comme les quartiers nord aujourd'hui à Marseille, que bon voilà, quand on n'a pas beaucoup d'argent et que c'est un peu la misère, on va plutôt aller dans certains quartiers. Et à l'époque c'était ces vieux quartiers, aujourd'hui c'est plus les quartiers nord.
C'est ça, après ça vient principalement des réseaux communautaires aussi on peut dire, c'est-à-dire qu'un Italien qui arrivait à Marseille ou un Corse ou autre, il pouvait avoir un cousin ou quelqu'un de son village qui habitait déjà là, et donc il l'aidait à pouvoir s'installer, ce qui a créé des petites communautés. Au Panier par exemple, principalement des Corses, dans la vieille ville principalement des Napolitains, et il y avait tout ce mélange avec des gens qui travaillaient principalement les métiers liés à la mer.
Et est-ce que les vieux quartiers étaient vraiment découpés? Là, il y avait les Napolitains, là, il y avait les Yougoslaves, là, il y avait...
Non, c'était quand même très mélangé. Après, il y avait certaines rues où, on va dire, des gens de tel village ou de telle ville avaient tendance à se regrouper. Mais d'une manière générale, c'était quand même extrêmement mélangé, avec beaucoup des Marseillais d'origine, Marseillais traditionnels, comme on disait à l'époque, des Napolitains, des Corses, Espagnols, quelques Gitans également. Mais le tout était mélangé, même s'il y avait une tendance à se replier sur sa communauté, les gens vivaient en bonne entente, d'une manière générale.
Il y avait, je crois, aussi une langue particulière, non ? Une sorte de patois local.
Ce qu'on appelait le Saint-Janin ou le Saint-Jananc, qui est un mélange de provençal, d'argot marseillais, d'italien et de napolitain. Et ça a donné une espèce de dialecte délimité à ces vieux quartiers, qui a été parlé au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Par la suite, il s'est beaucoup perdu, mais il y avait toujours des expressions, des mots qui venaient de cette langue-là. Mais avant, fin 19e, même certains immigrés ne parlaient que leur langue d'origine et le Saint-Janin, mais ne parlaient pas français, par exemple.
Alors, pour revenir à la fosse, qui est donc cette zone, je crois qu'il occupait un cinquième de ces vieux quartiers qui ont été détruits par les Allemands en 1943. Dans cette fosse, à proprement parler, il y avait combien de ruelles ?
Il y avait une quinzaine de ruelles et une place, qui était la place Vivot, une place où se trouvait une halle aux poissons. Donc c'était un peu le poumon économique de la zone prostitutionnelle. Il y avait plusieurs commerces, pharmacies, tabac, coiffeurs, etc. Et ensuite, la rue principale du quartier, c'était la rue Boutrie, qui le traversait d'un bout à l'autre et qui s'ouvrait sur toutes les autres rues en perpendiculaire à droite et à gauche. C'était vraiment, on peut dire, la canebière des bas-fonds. Elle était connue à l'époque dans le monde entier. Tous les marins de n'importe où savaient que la rue Boutrie était la rue des prostituées à Marseille. Une autre rue très célèbre, c'était la rue de la Reynarde, qui était une rue avec une prostitution un peu plus haut de gamme, on va dire. C'est là où il y avait les maisons closes de luxe, si on peut dire ça, qui étaient plutôt réservées aux officiers, aux armateurs, aux bourgeois. Il y en avait une dizaine, oui, qui étaient assez célèbres et qui étaient avec tout le standing bourgeois qu'on peut imaginer.
On sait combien de personnes vivaient là quotidiennement ?
Dans le quartier réservé, grâce au recensement, j'ai estimé à peu près à 5000 personnes, les habitants. Et les prostituées, à peu près 500. Ça, c'est plus dur à déterminer, mais c'est ce que les diverses sources m'ont appris.
Donc, ce quartier réservé était contrôlé au niveau de l'hygiène, notamment par les autorités. Mais ensuite, il y avait ce qu'on appelait les macros. Alors, comment se passait un petit peu la gestion de la prostitution ?
Alors, les filles étaient... Pour être prostituées, il fallait absolument être enregistrées auprès des autorités. On les appelait les filles encartées ou les filles soumises, dans le sens qu'elles étaient soumises à un contrôle hygiénique. Et une fois par semaine, elles devaient aller voir un médecin qui vérifiait qu'elles n'avaient pas de maladie vénérienne pour éviter de contaminer la population. Et en cas de contamination, si jamais elles étaient malades, on les envoyait de force à l'hôpital de la Conception le temps de les soigner. Et là, c'était dans des conditions vraiment dignes d'une prison, quoi. C'est pas réellement interdiction de sortir avec des peines équivalentes au mitard au sein même de l'hôpital. Et tout ça n'était pas très rigolo.
Bah, du coup, alors le client était rassuré puisqu'elles étaient suivies, les prostituées.
Exactement. Je pensais aussi ce qui a fait le succès du quartier. Mais à côté des prostituées en quartier, il y avait énormément de clandestines. Parce que l'encartement, ça demandait aussi un certain nombre de restrictions. Et les prostituées ne voulaient pas être encartées. Elles préféraient travailler librement. Donc il y avait ces deux populations, les filles encartées et les filles clandestines.
Alors le quartier a connu plusieurs périodes au niveau des trafics et autres rivalités pour la maîtrise du territoire. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur ces différentes périodes ? Il y avait les Nervis d'abord, la guerre des gangs, puis ensuite il y a eu la peur de Borsalino. Voilà, est-ce qu'on peut un peu balayer ces périodes au niveau donc de ces bandes ?
Grosso modo, il y a eu une première période un peu de tâtonnement au 19e siècle, de 1878 à 1900, où il n'y a pas eu de changement manifeste. Malgré les nouvelles lois, la prostitution continue à se développer ailleurs. Donc le quartier réservé n'était pas encore aussi central que s'il est devenu par la suite. Mais petit à petit, il a eu énormément de succès. Et donc la plupart des macros de la ville ont voulu travailler dans ce quartier-là. Ce qui a créé un certain nombre de frictions et beaucoup d'antagonismes. Et c'est là où les premières bandes se sont constituées, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et on entre autour de 1900 dans une période avec une criminalité un peu plus organisée. C'est-à-dire qu'on a des bandes constituées assez floues, quoi. C'est pas non plus quelque chose de très hiérarchique, mais des macros qui se réunissent selon leurs affinités, leur lieu d'origine, etc., le quartier où ils habitent. Et donc en 1902, la première guerre des gangs éclate, la première de l'histoire de Marseille a priori, entre la bande de Saint-Jean, appelée aussi la bande des 21, qui était originaire du Vieux-Port, et la bande de Saint-Mauron, qui était originaire donc de la proche banlieue nord de Marseille, pour des histoires de contrôle du quartier et également de tripots clandestins. A priori, il y a beaucoup de raisons au déclenchement de cette guerre entre ces deux bandes.
Et ensuite, il va dans les années 20, est-ce que voilà, ça va un petit peu...
Il y a eu un tournant 20-30. En 14-18.
Oui.
Marseille a charrié énormément de population à ce moment-là, parce qu'il y avait déjà tous les tirailleurs d'Afrique du Nord, d'Afrique noire et d'Indochine, et également des dom-toms qui passaient par Marseille pour aller au front. Également toutes les populations de l'empire colonial britannique, des Américains, des Russes, des Hindous, des Néo-Zélandais. Donc Marseille est devenue vraiment un carrefour des peuples, encore plus que ce qu'elle était auparavant. Et les soldats, avant d'aller au front, où est-ce qu'ils allaient ? Ils allaient voir les filles, ils allaient donc au quartier réservé. Et c'est vraiment à ce moment-là que le quartier réservé est devenu internationalement connu. Et il y a vraiment un tournant au moment de 14-18, quoi. Et ensuite, dans les années 20, on a une nouvelle pègre qui arrive, plus moderne. On laisse tomber les casquettes et tout ça, et là c'est le costume croisé, le Borsalino, les armes à feu, les pistolets automatiques. Et il y a cette nouvelle PEC qui arrive, et beaucoup plus cosmopolite aussi. Autrefois c'était principalement Marseillais, Italiens et Corses. Dans les années 20, il y a également les macros sénégalais, guadeloupéens, martiniquais, kabyles, quelques indochinois, espagnols, maltais qui arrivent, et il y a une espèce de PEC très internationale qui se forme autour du Vieux-Port.
Je vous propose de faire une pause musicale. Tout de suite, vous écoutez Voix Marseillaise et on se retrouve avec Martin Huc pour continuer à parler de ce quartier réservé 1878-1943, ce quartier qui se trouvait derrière la mairie centrale actuelle.
Pas mal d'un rival car il sait très bien qu'après le turbin je reviens. J'ai voulu, j'ai pas pu le mettre en colère. C'est un vrai qui connaît bien son affaire. Il encaisse tout, il s'en fout, il est diplomate. Il prend le temps doucement comme un automate. Quand un rutin m'invite à danser, il ne dit rien car je suis alloué. Des boniments, il en vend, même il en fabrique. Pour moi, mon homme est tout comme une grue électrique. Il prend mes sous, il tient le bon bout. Il encaisse tout, il s'en fout, il est pas jaloux.
Toujours avec Martin Hugues pour parler de ce quartier réservé qui se trouvait donc dans les vieux quartiers marseillais autour du quai du port. On va parler un petit peu sur ces bagarres qu'il y avait, parce que ces quartiers étaient aussi connus pour ces bagarres, ce côté un peu insécurité, avec plusieurs bandes. Il y avait donc, tu en as parlé juste avant la pause musicale, des bagarres entre Marseillais, Maghrébins, Corses et Noirs. Est-ce que tu peux un petit peu revenir, même si c'est un peu anecdotique, mais c'était aussi, ça faisait aussi la réputation de ces quartiers.
Bien sûr, ça restait un quartier très dangereux, où j'ai recensé 300 meurtres, moi, entre 78 et 43. Donc je pense qu'aucun quartier de Marseille n'a connu une telle hécatombe, à mon avis. Et notamment rue Boutry, où juste dans cette seule rue, il y en a eu une cinquantaine. Et ce qui est étrange, c'est que quand on entend les témoignages des anciens habitants, qui n'étaient pas liés à la pègre ni rien, ils gardent un très bon souvenir du quartier malgré tout. C'est-à-dire que le côté insécuritaire, on a l'impression qu'ils l'ont très peu vécu. Mais pourtant, quand on lit les faits divers, en revanche, on trouve un nombre de meurtres, de bagarres au couteau, au pistolet, à coups de chaise, tout ça, incroyable, quoi, puisqu'il y avait tout ce marasme, quoi, avec beaucoup de, on peut dire, une virilité exacerbée, beaucoup d'alcool, des marins qui revenaient de longues traversées, ou des soldats qui partaient pour le front ou pour le désert algérien, dans le cas des légionnaires ou des bataillons d'Afrique. Et donc, tous ces gens allaient dans les quartiers réservés un peu pour se défouler. Ça créait beaucoup de friction. Et ensuite, également, entre macros, pour des histoires de filles, de jalousie ou de rivalité financière ou autre.
Est-ce que pour un simple, j'allais dire habitant de Marseille, traverser ce quartier, la fosse, ce quartier réservé, c'était dangereux, comme ça en plein jour?
En plein jour, je pense pas. Après, il y avait ce qu'on appelait une tradition marseillaise qui s'appelait le coup du chapeau.
Ah oui,
c'est-à-dire que
ça,
quand
oui.
Les filles avaient du mal à trouver des clients et quelqu'un qu'elles connaissaient pas passer dans le quartier, elles lui chipaient son chapeau ou n'importe quel autre objet, mais le chapeau avait une certaine valeur et elles se barraient dans leur bordel ou dans leur hôtel.
C'était pour les bourgeois, non, surtout?
Principalement, mais disons qu'elle faisait avec ce qu'elle trouvait. Donc l'homme qui s'était fait voler allait dans le bordel, et là on lui disait, avec un ton un peu menaçant, si vous voulez votre chapeau, il va falloir payer et faire une passe avec la fille en question. Et c'est quelque chose qui était connu à Marseille, que ça se passait de cette façon, et les gens faisaient très attention. Il y a beaucoup de témoignages comme ça de gens qui l'ont subi, par exemple le reporter Albert Londres, il a subi ce coup du chapeau, également Joseph Joffaut, dans Un sac de billes, il raconte à Marseille que même s'il avait 11 ou 12 ans, il s'est fait piquer son béret, parce que les filles voulaient lui prendre ses sous. Finalement, il y a une plus ancienne qui est intervenue pour qu'on lui rende. Mais il y avait cette tradition-là. Ensuite, de jour, il n'y avait pas une dangerosité particulière. C'était plutôt le soir où on savait qu'il y avait ce qu'on appelait des rôdeurs, quoi, des gens qui cherchaient des personnes isolées pour les dépouiller, quoi, tout simplement. Leur prendre toutes les affaires qu'ils avaient sur eux, les montres, l'argent, le chapeau, tout ce qui pouvait être pris. Donc il y avait une dangerosité. Mais les habitants du quartier... Ça, c'est des anciens qui l'ont raconté. Ils avaient une certaine... On les laissait tranquilles, quoi. C'est-à-dire qu'eux, si on tombait sur eux pour les dépouiller, qu'on voyait que c'était quelqu'un du quartier, les nervis, les bandits disaient « On lui touche pas, il est du quartier, il a le blanc-seing, comme on disait à l'époque. Il a le blanc-seing, laissez-le tranquille, quoi. »
Est-ce que la police intervenait? Est-ce qu'il y avait une autogestion un peu de ces quartiers?
Il y avait une autogestion, mais la police était quand même très présente, étant donné que c'était un quartier officiellement lié à la prostitution. Il fallait qu'il y ait une certaine tranquillité pour que les clients puissent s'y promener tranquillement. Donc il y avait quand même des patrouilles assez régulières dans le quartier réservé. Ouais. Et puis avec certaines frictions, il y a eu beaucoup d'histoires de fusillades, de bagarres entre policiers et bandits. Il y a eu plusieurs policiers qui ont été tués dans le quartier. Et oui, donc la police était quand même présente et intervenait parfois, parfois non, puisqu'il y avait aussi de la corruption, évidemment. Donc il laissait faire certaines choses et il fermait les yeux contre quelques billets, quoi.
Est-ce qu'on peut parler des noms, des figures un peu mythiques de ce quartier qui faisait partie de la Pègre? Je pense à la famille Landy, je crois. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ces familles, sur ces bandes qui étaient connues, qui ont marqué un petit peu le quartier?
Disons, la première bande célèbre, c'est la bande de Saint-Jean, qui était aussi appelée la bande des 21. C'est vraiment le premier gang de l'histoire de Marseille, si on peut dire ça comme ça, qui était une réunion principalement de Corses et d'Italiens, de Napolitains, qui ont créé cette bande pour avoir une hégémonie sur le quartier réservé. Ce qui a amené ensuite une guerre avec la bande de Saint-Mauron, qui elle aussi espérait avoir sa part du gâteau. Donc dans cette première bande, la figure marquante, c'était François Albertini, qu'on surnommait le Fou, qui était extrêmement craint et qui a fini sa vie au bagne. Lui, on peut dire que c'est la première star du milieu marseillais, si on peut dire ça comme ça. Et autour de lui, il y avait tout un tas d'autres figures, des gens qui avaient la gâchette facile. Et il y en a eu d'autres.
Alors, Toussaint Landy et sa sœur, Claire Smadja, est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Eux, c'est par la suite, c'est après-guerre. Donc, Toussaint Landy et sa sœur, ce sont des Corses qui ont vécu en Algérie. C'est là où ils ont commencé dans la prostitution. Elle, en tant que maquerelle, et lui, en tant que maquereau. Et ils faisaient ce qu'on appelait la traite des blanches. C'est-à-dire qu'ils faisaient venir des filles de France pour les faire travailler en Algérie, puis les envoyer dans divers bordels, dans les colonies principalement. Une fois qu'ils sont devenus riches, ils sont rentrés à Marseille et ils ont investi dans le quartier réservé. Ils ont notamment acheté un bordel très célèbre qui s'appelait Chez Aline et qui est devenu au fil du temps le bordel des artistes, des écrivains, des poètes. C'était un peu le passage obligé de la petite bohème du quartier réservé, puisque eux-mêmes, ils avaient un neveu qui s'appelait Antoine Gianelli, qui était peintre, qui a été aux Beaux-Arts. Et donc, a priori, c'est ce neveu qui a fait venir toute la bohème marseillaise et internationale qui fréquentait Marseille vers ce bordel-là et vers le quartier réservé où Toussaint Landy jouait un petit peu le protecteur, quoi. C'était le mécène des artistes pour qu'ils faisaient en sorte qu'il leur arrive le moins de choses possible. Claire Smadja également. C'est un petit peu le petit mécénat de la bohème des bas-fonds.
Alors, il y avait aussi de la drogue, hein. Les fumeries et surtout une loi de 1916 va un peu venir bouleverser tout ça puisque on va interdire l'usage et la vente de la drogue. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont changer à Marseille au niveau donc de la consommation de la drogue et dans ce quartier plus particulièrement.
Oui, là, c'est un petit peu l'équivalent de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Le fait que la drogue soit rendue illégale, ça l'a jeté dans les bras du grand banditisme. Et en fait, ça a développé le trafic plus qu'autre chose. Donc, dans le quartier réservé, on avait une assez importante communauté indo-chinoise et chinoise qui était habituée à l'opium et donc qui ont ouvert des petites fumeries clandestines dans l'arrière-salle des restaurants. Et donc, c'était principalement l'opium. Il y avait aussi beaucoup de cocaïne déjà à l'époque pour les noctambules, les filles aussi pour tenir parce qu'elles avaient parfois des cadences infernales. Et tout ça se passait de manière très cachée dans les bars, sur les parvis, etc. Notamment place Victor Gelu, qui était un des centres du trafic de drogue à l'époque. Il y avait également l'héroïne à ce moment-là. Et c'était un trafic international, quoi. C'est-à-dire que ça venait beaucoup d'Égypte, de Grèce ou de Turquie. Ça passait par Marseille, qui était un des principaux ports d'approvisionnement pour la drogue en France. Et ensuite, de Marseille, ça partait également vers Paris, Le Havre. Enfin, c'était une vraie plaque tournante.
Ça va poser un peu le socle de la French Connection?
Tout à fait, ouais. Avec Carbone et Spirito, les célèbres parrains de Marseille des années 30, qui ont commencé dans l'héroïne un petit peu pour la vendre en France, mais ça marchait pas tellement. Spirito étant italien, il avait des liens avec les Italiens de New York. Et c'est là où ils se sont dit, on va peut-être essayer d'envoyer de l'héroïne à New York parce qu'on a des contacts là-bas. Et c'est les premiers pas de la French Connection, c'est à cette époque-là. De manière très artisanale, c'était un tout petit trafic, c'était 5-10 kilos par traversée. Mais la base, c'est à ce moment-là qu'elle a été créée, qui s'est ensuite développée dans les années 50-60. Mais la naissance, c'est vraiment début des années 30.
Et donc, ça va se développer, prendre des proportions et ça va devenir un problème pour les autorités ou pas?
Bien sûr, oui, ils vont essayer de lutter le plus possible contre, même si la consommation était bien moins importante qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, il y avait déjà, autrefois, il y avait des problèmes avec l'alcool et tout ça. Mais là, ça crée des nouvelles addictions, des nouveaux problèmes de ce niveau-là. Et là, les autorités ont vraiment essayé de lutter contre.
Alors parlons, mettons, des établissements qui existaient, puisque les gens venaient effectivement s'encanailler, il y avait la prostitution, mais il y avait aussi des établissements, une sorte de restaurant, des lieux où les artistes aimaient bien venir, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut citer quelques établissements qui avaient une certaine réputation ?
Alors au total, il y en avait à peu près 90 d'établissements, de trois types différents. Il y avait ce qu'on appelait les magasins, qui étaient des petits appartements de 9 mètres carrés qui ouvraient directement sur la rue, où les filles travaillaient à une ou deux personnes. Ça, ça a beaucoup marqué les observateurs du temps, parce que c'était quelque chose d'assez unique et d'assez sordide de ce qu'on comprend, parce qu'il n'y avait aucune fenêtre, rien du tout. C'est juste un lit et une fille qui attend devant que quelqu'un veut bien lui payer une passe. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les hôtels de passe, qui étaient des bars en rez-de-chaussée avec des chambres à l'étage. Donc ça, c'est un petit peu les bordels, le bordel du pauvre, si on veut. Il y en avait énormément. Et ensuite, il y a les maisons closes, stricto sensu, qui étaient plutôt destinées à une clientèle un peu plus argentée. C'est-à-dire qu'elles occupaient l'entièreté des immeubles où elles étaient installées, et avec des salons de grand standing, avec tout un apparat assez chic.
Et là, c'est rue de la Reynarde plutôt ?
Rue de la Reynarde, rue Ventomagie et rue Bourgogne. Ça, c'était les trois rues les plus...
Un peu chic,
on peut dire ça. Ça restait le quartier réservé, donc quand même toujours un petit peu malfamé, si on veut. Mais c'était des établissements qui étaient interdits aux tout venants, quoi, avec des prix très chers à l'intérieur, avec une physionomiste à l'entrée qui décidait de qui pouvait entrer ou non. Et il y avait toutes ces règles, c'était la partie la plus chic du quartier, oui.
On pouvait manger, on pouvait...
Également, oui.
Il y avait aussi des endroits où on pouvait écouter de la musique seulement ou...
Oui, il y avait des boui-boui déjà pour manger. Très internationaux, alors beaucoup de cantines italiennes, mais également un certain nombre de restaurants chinois et vietnamiens. Il y avait des restaurants corses de toutes les origines, yougoslaves, arméniens. Et pour la musique, ça y en avait dans tout le quartier, c'est-à-dire que chaque bar avait son piano mécanique ou son gramophone, où on passait notamment du jazz et ce type de musique-là. Il y avait des orchestres itinérants, des joueurs d'orgue de barbarie, des joueurs d'accordéon. Enfin, en fait, c'était vraiment un espèce de brouhaha continu. Ce que les gens décrivent à cette époque-là, c'est de la musique partout et presque inaudible, tellement elle est à tous les coins de rue, des gens qui jouaient de la guitare, enfin des gens qui chantaient à haute voix pour demander une petite pièce. Et la musique était très très présente.
Mais on se demande comment faisaient les habitants là pour dormir, non ?
C'est comme dans les quartiers festifs aujourd'hui, hein, au Cours Julien, ils ont aussi du mal. Je pense que ça peut être un peu équivalent.
Et chez Aline, aux deux rues Ventomagie, qu'est-ce qu'on peut dire de cet établissement qui avait une certaine réputation ?
Là, c'était le plus célèbre vraiment dans le monde entier, je pense. Et c'était principalement le bordel des artistes et des écrivains, qui a été fréquenté par des gens comme Henri Matisse, par Jean Cocteau, Simone de Beauvoir, qui a priori ne consommait pas, mais elle aimait bien s'y rendre pour observer, et des tas d'autres gens, Pierre Macorlan comme écrivain, Blaise Cendrars, Francis Carco. Il y a eu toute une bohème marseillaise qui a aimé à fréquenter cet établissement, parce qu'il était détenu par les Landis, dont on a parlé tout à l'heure, qui les protégeait, qui les accueillait bien, qui c'était le petit endroit où tout le monde se retrouvait, quoi, finalement. Des artistes, que ce soit de Marseille, d'ailleurs en France ou du monde entier.
Est-ce qu'il y avait d'autres établissements comme ça ?
Alors l'autre, le plus célèbre, c'est le Citaria, qui est toujours dans la rue Ventomagie, juste à côté de chez Aline, qui est connu pour être le premier où un cinéma pornographique a ouvert. C'était en 1916, où ils ont ouvert une salle de projection dans l'arrière-salle de leur bordel. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau qui plaisait beaucoup aux poètes, notamment Paul Éluard. On a retrouvé des lettres de Paul Éluard qu'il écrivait à sa femme pour lui dire à quel point le cinéma porno est extraordinaire. On sait que Paul
Valéry...
C'est les
films bleus, c'est ça on appelait.
C'est ça, le cinéma bleu, exactement. On sait que Paul Valéry le fréquentait aussi, Jean Cocteau, Claude Maquet, l'auteur afro-américain, l'a fréquenté également. C'était quelque chose de très nouveau qui plaisait beaucoup comme une sorte de curiosité. Une fois que le Citaria l'a ouvert en 1916, trois ou quatre autres maisons closes ont eu également leur salle de cinéma pornographique dans leur établissement.
Et la musique, alors le jazz, paraît-il, est arrivé à Marseille par le biais de ces vieux quartiers avec les marins noirs américains, c'est ça ?
Exactement, oui. C'est ce qui est dit notamment dans un livre qui s'appelle « À fond de cale », qui parle de l'histoire du jazz à Marseille. Et c'est qu'a priori, le premier rapport de Marseille avec le jazz, ça vient des soldats afro-américains pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire beaucoup de jazzmen qui venaient de la Nouvelle-Orléans, se sont engagés dans l'armée, ont débarqué à Marseille avec leurs instruments. Comme ils allaient dans les bordels, ils jouaient de la musique à cet endroit-là et c'est là que le jazz a commencé à se répandre petit à petit dans les vieux quartiers par le biais d'abord d'orchestres itinérants, puis avec les pianos mécaniques, les gramophones. Et c'est très bien documenté également dans le roman Banjo de Claude Maquet, qui raconte toute cette effervescence musicale autour du jazz qu'il y avait dans les vieux quartiers.
Alors vous écoutez toujours Voix Marseillaise, je suis avec Martin Huc et on parle de Marseille interdite 1878-1943, histoire du quartier réservé aux éditions de la Manufacture de Livres. C'est un livre qui est sorti au mois de juin, vraiment une somme importante et à mon avis c'est une référence qui parle très très bien de ce sujet. On fait une petite pause musicale, Martin, et on revient après et on continue.
J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs, quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promène, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, la fille, tu ne vas pas rester là sans fin, t'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps glacé par la pluie. Mais j'en peux plus, j'attends sans cesse que le bon Dieu vienne pour m'inviter.
Retour avec Martin Huc hein, pour parler toujours de ce quartier réservé. C'est passionnant, il y a plein de choses à dire. Alors Martin, il y avait des guides même non officiels qui permettaient aux gens de se promener dans ce quartier réservé. Donc ce quartier qui était situé derrière la mairie centrale aujourd'hui.
Tout à fait, on avait des gens un petit peu type gens de la rue, un peu vagabonds, qui traînaient devant les agences touristiques ou sur le Vieux-Port ou dans certaines places, quartier Bolzins, etc., qui allaient voir des clients potentiels pour leur dire « Est-ce que ça vous dit de venir faire un tour dans le quartier réservé ?» Étant donné que le quartier avait mauvaise réputation, qu'il était assez labyrinthique, avoir un guide qui connaissait déjà les habitants, les filles, les macros, etc., ça pouvait aider. Donc on avait ces guides qui vivaient de ça et qui se faisaient payer en retour à la fois par les patrons des établissements et par la personne qui était guidée. Qui pouvait être à la fois des marins, des bourgeois, des touristes. C'était assez large, quoi, le panel. On avait effectivement ces guides et qui venaient du monde entier, quoi. Il y avait vraiment des gens de partout qui connaissaient bien le quartier et qui se chargeaient de guider les personnes à l'intérieur.
Qu'est-ce qui a attiré la bohème, les écrivains, les hommes et femmes de culture dans ces quartiers qui étaient de passage à Marseille et qui allaient, j'allais dire, faire une sorte de safari, entre guillemets?
Disons que la bohème a toujours été attirée par les plaisirs, si on peut dire ça, tout comme Pigalle en France, à Paris, pardon. Et ensuite, il y avait un côté très folklorique dans le quartier réservé de Marseille. C'était déjà le plus vieux quartier de France à l'époque, fait de ruelles avec une atmosphère très méditerranéenne, beaucoup d'Italiens et de gens de la Méditerranée, donc on se parlait d'une fenêtre à l'autre, il y avait le linge, un peu comme pourrait être Naples aujourd'hui. Donc tout ça plaisait énormément. Et après, il y avait toute cette effervescence cosmopolite aussi qui attirait, à mon avis, effectivement, comme des sortes un petit peu de safari. C'était une manière de s'encanailler, si on veut. À la fois d'aller voir les filles, mais il y avait aussi cette impression d'être dans un milieu qui n'est pas le leur, mais qui les attire par son côté malfamé et marginal.
Est-ce que les macros, les bandits là, qui géraient cette prostitution et les prostituées étaient aussi, j'allais dire, attirés par cette bohème, par ce monde culturel qui venait chez eux? Est-ce qu'il y avait eu des interactions?
Bien sûr, parce que pour eux, c'était quelque chose d'assez prestigieux de fréquenter des écrivains qui avaient publié, des peintres connus, même si eux-mêmes souvent connaissaient rien à l'art. Mais fréquenter des célébrités, c'était pour eux un petit peu le show business de l'époque. Donc, ils aimaient fréquenter ces gens-là, qui en plus souvent avaient tendance à dépenser beaucoup d'argent, donc ça leur en rapportait énormément. Mais il y avait effectivement un lien assez fort, même si les artistes avaient besoin quand même d'une certaine protection pour être sûr de ne pas se faire dépouiller. Ça a failli arriver à Moïse Kissling, par exemple. C'est une anecdote qui a été rapportée, qui a payé une tournée avec un gros billet de 1000 francs, et directement des nervis sont mis à l'affût pour le dépouiller en douce quand il sortait dans la rue, mais des amis, des caïds du quartier qui étaient amis avec le peintre, ils ont tout de suite arrêté, et l'ont engueulé en lui disant « ne refais jamais ça ici ». Tu risques ta vie, quoi.
Il y a des artistes qui se sont perdus, non, dans ces quartiers?
Bien sûr, ouais.
Par exemple, Jules Pasquine, non?
Lui, oui.
Est-ce qu'on peut parler de son cas, entre guillemets? Qui était Jules Pasquine?
Lui, c'était un peintre d'origine bulgare qui a fait sa carrière principalement à Paris, à Montparnasse, mais qui avait rencontré Toussaint Landy, qui a sympathisé avec lui et qui, en venant lui rendre visite à Marseille, a découvert le quartier réservé. Et là, il s'y est plus comme un poisson dans l'eau, quoi, entre les filles, les malfrats. Il y avait aussi toute une population de prostituées homosexuelles. Lui-même n'était pas homosexuel, mais il aimait bien les fréquenter, en tout cas. Et donc lui, il s'est complètement perdu dans l'alcool, les drogues, dans le quartier réservé, tout comme à Paris. Et il y avait son pendant marseillais, qui s'appelait Marcel Leprin, qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui a été un peintre assez important. Lui, c'est un enfant des vieux quartiers, et qui a vraiment fréquenté le quartier réservé, qui a vécu. Il a même sans doute été macro, on n'est pas trop sûr, mais il a vécu là, il a traîné son vague à l'âme dans le quartier réservé, toujours sous la protection du clan Landy, qui était vraiment le clan protecteur des artistes de passage à Marseille.
Et on parle des années 20-30
Là, c'est les années 1920, oui, avec le clan Landy. Mais déjà, à la belle époque, il y avait tout le mouvement des fauves parisiens qui fréquentaient aussi le quartier réservé. Quelques écrivains, on a eu Guy de Maupassant, de retour d'Algérie, qui s'arrêtait à Marseille, qui a fréquenté le quartier. Il en a tiré une nouvelle qui s'appelle Le Port. Et beaucoup d'autres, Jean Lorrain, par exemple, également. Et tout le mouvement des fauves parisiens, Henri Matisse, et d'autres comme Albert Marquet, qui venaient dans le sud au départ pour le soleil provençal, pour s'en inspirer pour leur peinture. Une fois qu'ils étaient à Marseille, ils voulaient aller s'amuser un peu. Ils allaient beaucoup dans le quartier des filles et tout ça. On a des traces parce que grâce à leur correspondance, où ils s'envoient des courriers entre eux pour dire « je me suis bien éclaté rue Boutrie ou à tel endroit ». Ils ont communiqué comme ça entre eux et c'est comme ça qu'on a su qu'ils fréquentaient ce quartier-là.
Et tu dis dans ton livre, je crois, qu'il y avait un âge d'or pour ce quartier réservé ?
L'âge d'or de la Bohème, c'est 1920-1928 à peu près, c'est-à-dire juste après la guerre. C'est le moment où le quartier était célèbre dans le monde entier, où il y avait des guides touristiques. C'était devenu une curiosité de Marseille à visiter. Également, les touristes qui faisaient des croisières s'arrêtaient à Marseille. Ils allaient voir Notre-Dame de la Garde, la Canebière, mais ils allaient aussi au quartier réservé, puisque ça faisait partie du folklore local, si on veut. Et donc, de 1920 à 1928, ça a été extrêmement fréquenté par toute une bohème très importante. Également, on a les philosophes allemands comme Walter Benjamin, Ernest Bloch également. On a toute une flopée de photographes également, des cinéastes, toute l'équipe des Cahiers du Sud. Toute une bohème en fait qui se retrouvait là et qui aimait à fréquenter le quartier réservé.
Alors il y avait Claude Maquet aussi, qui est un Américain, qui est né en Jamaïque je crois, et qui lui a écrit un livre qui s'appelle Bonjo, de son expérience un peu de ce quartier réservé. C'était dans les années 20. Est-ce qu'on peut parler de son parcours et de son... Je crois qu'il a dû faire deux séjours à Marseille. Il en a tiré un livre. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce Claude Maquet du livre ?
Le livre Bonjo, déjà, je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on ait sur le quartier réservé. Donc, Claude Maquet, c'est un Jamaïcain naturalisé américain qui a vécu à Harlem, qui a participé au mouvement de la Renaissance d'Harlem avec la littérature noire qui a commencé à émerger à ce moment-là. Et qui a vécu à Marseille dans les années en 1927, si je ne me trompe pas. Il a vécu 3 mois dans le quartier réservé, toujours sous la protection de Toussaint Landy, le caïd et le mécène des artistes. Et de cette expérience-là, il a tiré un roman très intéressant, qui est passionnant et très bien écrit, où il raconte vraiment le quartier réservé au quotidien, sans folklore. Il n'en fait ni, il n'exagère pas le côté malfamé. D'un autre côté, il n'en fait pas non plus un phénomène de foire. Il raconte une espèce de quotidienneté très simple, avec tous les vagabonds qu'il fréquentait et tout ce bas peuple. Et je pense que c'est le témoignage au plus près de la réalité, puisque les autres témoignages qu'on a, c'est beaucoup des reporters qui cherchent peut-être le sensationnel, ou alors des écrivains qui avaient déjà des a priori sur ce quartier. Lui, il est américain, il n'avait pas d'a priori particulier, et son témoignage est très brut. Et j'invite tout le monde à lire ce livre, parce qu'il est vraiment très très intéressant.
Il y a Pierre Macorlan, non ?
Également, oui.
Qu'est-ce qu'il a fait, lui ?
Lui, il a fréquenté très jeune, en 1906, donc je crois qu'il avait une vingtaine d'années. Il était de passage à Marseille par hasard et il s'est retrouvé au milieu du quartier réservé. Il a été complètement émerveillé par ce quartier. Enfin, ça, il raconte dans ses articles, quoi. Plein de vie, de couleurs, plein, très cosmopolite avec des militaires, des gens en habit traditionnel de leur pays d'origine. Et il y est retourné par la suite. Il était plus âgé. Il a été là et peut-être qu'il a vu le quartier avec moins d'étoiles dans les yeux et un peu plus de réalisme. Et ça lui a beaucoup moins plu dans les années 20, puis dans les années 30, où il voyait uniquement le côté malfamé, sale, insalubre, avec une espèce de nostalgie de sa jeunesse quand il était passé dans le quartier réservé. La première fois, il en a tiré un roman qui s'appelle Quartier réservé, qui est sorti en 1932, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 nouvelles et plusieurs articles pour Détective notamment. En tout cas, ça a été un sujet important de sa littérature. Ça l'a marqué.
André Suarez, donc un écrivain local, lui aussi a évoqué ce quartier réservé.
Dans Marcillo.
Il fréquentait peut-être aussi.
Oui, il le fréquentait, il le dit très bien dans donc son livre Marcillo qui est dédié à Marseille. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Le Grand Lupanar où il décrit le quartier réservé et où il dit très bien qu'il a fréquenté de longue date, il le précise. Et lui, il raconte le quartier de manière très organique, donc c'est aussi un témoignage intéressant. Il y a peu de descriptions physiques ou d'apparence, c'est vraiment les sensations que lui retient de ce quartier-là, les sensations intimes qu'il a pu avoir, avec un espèce de bouillonnement de tous les sens. C'est comme ça qu'il en parle en tout cas, et c'est un autre témoignage très important sur le quartier réservé à l'époque.
Il y a le poète Louis Broquier.
Louis Broquier aussi, passionnant, lui qui était poète et marin. Donc étant donné que la population, la clientèle du quartier réservé venait principalement de la marine, ça a été un des premiers quartiers à filles qu'il a fréquenté. Il en a tiré plusieurs poèmes qui sont très touchants, et également un court roman qui s'appelle « Aux armes de Cardiff », qui a été publié à titre posthume en 2000, si je ne me trompe pas. Et c'est un des autres témoins de cette époque, parmi énormément d'autres. Édouard Pesson, notamment, ou Eugène Montfort. Ils sont très nombreux à avoir écrit sur le quartier.
Il y avait également donc, des écrivains étrangers, Joseph Roth, Walter Benjamin. Donc eux, ils venaient chercher quoi ?
Alors eux, au départ, ils étaient venus, donc Walter Benjamin, Ernest Bloch et d'autres, c'était pour rencontrer les gens des Cahiers du Sud. Parce qu'ils aimaient beaucoup cette revue, donc c'était une revue littéraire marseillaise très importante en ce temps-là. Mais après, quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont vu cette ville grouillante, si on veut, grouillante de monde et de population, une espèce de ville-monde comme ça, ouvert sur la Méditerranée. Ils ont eu envie de l'explorer un peu plus profondément. Et le cœur de la ville grouillante, c'était le quartier réservé à cette époque-là, c'est là où tous ces aspects étaient le plus décuplés. Donc il y a eu cette volonté, c'était plus une espèce d'observation, si on veut, plutôt que comme client. Mais ils ont eu un attrait énorme pour Marseille, en tout cas. Ça, on le retrouve aussi dans leurs correspondances, dans leurs écrits. Ils avaient une espèce d'attraction pour cette ville pleine de vie qui était énorme.
On parlait de jazz, je te propose d'écouter un morceau de jazz qu'on écoutait peut-être probablement dans ces vieux quartiers à l'époque.
Thank you.
Vous écoutez Voix Marseillaise sur Radio Galère avec Martin Huc aujourd'hui comme invité principal pour parler de ce quartier réservé. Martin, on va parler des peintres. Il y avait les écrivains, on les a évoqués tout à l'heure. Il y a eu des peintres qui se sont inspirés donc de ce quartier réservé, des vieux quartiers. Certains ont même fait des fresques, ils avaient des commandes des gens de la Pègre là-bas qui avaient sous leur autorité des cafés, des établissements. Alors, est-ce que tu peux évoquer donc cette partie artistique hein, du quartier réservé ?
Le premier à avoir peint le quartier réservé, a priori, c'est Charles Camoin, qui était donc un peintre marseillais qui a fait partie du mouvement des fauves, un petit peu à l'écart, mais qui en faisait partie, et qui en 1904 a peint la rue Boutry. Et c'est a priori la première représentation graphique du quartier réservé. Par la suite, il y en a eu énormément qui sont inspirés de ce quartier pour leurs toiles. On a Jean Paul, par exemple, l'ami de Ferdinand Céline, qui lui-même a fréquenté le quartier. On a Antoine Ferrari, Antoine Gianelli, Pierre Ambrogiani, le peintre marseillais. Il y a également Edgar Mélic. Et on a comme ça toute une iconographie assez importante. Edward Burra aussi, qui était un peintre anglais, britannique. Au moins entre 50 et 100 toiles qui ont été inspirées directement du quartier réservé, avec également des peintures directement dans le quartier, notamment Marcel Leprin, qui a peint les plafonds des bordels, qui a peint les devantures des bordels. Ce n'est pas le seul, mais lui, il s'est très documenté en tout cas. Il a fait des fresques gigantesques. Également Antoine Ferrari, qui était un autre peintre marseillais. C'est lui-même qui l'a raconté quand il y avait des bagarres dans les bordels, des choses comme ça, avec des coups de feu, et que les impacts de balles abîmaient les murs ou les dorures, on l'appelait pour qu'il aille repeindre par-dessus afin de cacher les traces de ces bagarres-là. Et lui-même, il peignait la rue directement en mettant son chevalet dans la rue. Et c'était toute cette bohème qui aimait à représenter ce quartier.
Oui, certains ont peint directement dans la rue. Bien avec sûr, le chevalet, quoi. Ouais. Mais on les laissait peindre.
On les laissait. Après, souvent, ils pouvaient se faire un peu emmerder, quoi. C'est-à-dire on pouvait leur piquer un truc parce que les filles aimaient bien... Beaucoup de filles étaient assez joueuses, quoi, si on veut. Donc, mais quand même... Souvent, les gens qui peignaient le quartier étaient des gens qu'ils fréquentaient. Donc, ils connaissaient le quartier, ils connaissaient ses habitants, ses filles, ses macros. Du coup, on les laissait faire. Ils faisaient aussi des portraits de filles, parfois. Des filles leur demandaient « Est-ce que tu peux me faire mon portrait ?» Ou des gangsters leur demandaient directement « Je te donne 100 francs et tu me fais mon portrait de moi avec madame. » Et autres. Donc, les peintres faisaient vraiment partie de la vie quotidienne du quartier réservé.
Et ils étaient protégés ? On les aimait dans ces quartiers ?
Oui, on les aimait énormément en général. Déjà, c'était des bons clients, comme je l'ai dit. Et puis les peintres, ils avaient une certaine aura quand même. Le fait de représenter comme ça en peinture une réalité assez sordide et en faire des œuvres d'art, ça plaisait beaucoup aux gens du quartier.
Alors, il y avait le cinéma aussi qui s'est intéressé, qui s'en est inspiré. Il y avait un film qui a fait grand bruit à l'époque, hein, Justin de Marsay de Maurice Tourneur, qui est sorti en 1935, qui se déroule pratiquement entièrement dans ce quartier réservé, non ?
Tout à fait. Alors le film, il faut savoir aussi qu'il a été interdit par les autorités. Le film a été interdit par les autorités marseillaises parce qu'il donnait une trop mauvaise image de la ville. Et effectivement, la majeure partie de l'action du film se passe dans le quartier réservé. Ça n'a pas été tourné directement sur place. Mais ça a été le quartier réservé reproduit en studio finalement. Et ça se passe principalement là. Il y avait aussi un autre film qui aurait dû être tiré du roman de Pierre Macorlan, qui devait être tourné. Mais finalement, le budget était trop important. Mais le quartier réservé avait entièrement été reconstitué en studio pour ce film, à Toulon. Finalement, il y a eu un problème de budget. Le film ne s'est pas fait. Et on sait que ces décors-là ont été gardés à Toulon très longtemps jusqu'à ce qu'ils dépérissent, ils se désagrègent petit à petit.
Même Marcel Pagnol, dans César, je crois, montre quelques...
De loin, parce qu'on sent que le sujet, il n'est pas trop à l'aise avec ce sujet-là. Mais il y a une ou deux scènes où on peut voir en filigrane le quartier réservé. Il y a une scène, un travelling le long du Vieux-Port, où on voit un moment l'entrée de la rue Coindreboule, et on devine deux ou trois filles qui sont des prostituées qui sont là. On voit également une scène, je crois que c'est Fanny, qui prend la fuite, qui se retrouve au milieu d'une bande de marins et de prostituées qui s'amuse à l'emmerder, quoi. Il y a comme ça quelques... Il ne pouvait pas passer à côté, quoi, en fait. Je pense qu'il ne voulait pas du tout aborder ce sujet-là. Mais en plaçant l'action de son film sur le Vieux-Port, il était obligé quand même de l'évoquer de manière très succincte, mais de l'évoquer quand même dans son film.
Il y a eu un film également qui a été fait par Molly Nagy dans les années 30, hein, du Bauhaus allemand, qui est un peu documente. Hein.
Oui, qui est un très beau film. Il est sur YouTube, donc là, c'est plutôt de l'ordre du documentaire, on peut dire, un documentaire imagé. Donc, lui, c'est un Hongrois qui fait partie du Bauhaus allemand. et qui est venu à Marseille avec une petite caméra pour filmer un petit peu la ville. Et donc, il filme le vieux port, tous les passages obligés, mais également, il filme la vieille ville. Donc, on a un témoignage unique sur les vieux quartiers où il est allé poser sa caméra dans ces rues-là, sans qu'il y ait de scénario ni rien, juste montrer à quoi ressemblaient ces rues. Alors, il va pas directement dans le quartier réservé, à part une ou deux rues qu'on devine en faire partie. Mais malgré tout, il montre à quoi pouvait ressembler l'espèce de pittoresque de ce quartier-là et également la misère noire qui sévissait, puisque là, on voit vraiment des immeubles sous le point de s'écrouler, la saleté partout, des gens qui ont l'air très pauvres, mais malgré tout, très souriants. Et ce film-là est disponible sur YouTube. Je crois qu'il suffit de taper le nom de l'auteur et
Marseille,
je crois.
Alors, 1932, une date importante pour la fosse. Hein. Le préfet des Bouches-du-Rhône va permettre l'ouverture de maisons de tolérance en dehors du quartier réservé, ce qui va faire dire à Pierre Macorlan, célèbre écrivain de l'époque, que le quartier réservé n'existe plus et que c'est le quartier de l'Opéra qui est en train de le remplacer, plus propre, plus aéré, plus luxueux.
Tout à fait. Quartier de l'Opéra et Belzunce également. C'est à ce moment-là, la pègre a commencé à se retirer du quartier réservé, puisque après la guerre, on a eu une nouvelle pègre qui avait plus moderne et qui avait envie d'une certaine respectabilité, et qui ont quitté ce quartier insalubre, de mauvaise réputation, pour aller dans des coins un peu plus bourgeois, l'Opéra principalement, où il y avait des beaux cabarets, des beaux bars, des beaux hôtels. Et donc la pègre a migré d'un bord du Vieux-Port vers l'autre, vers la partie bourgeoise, et la prostitution également. À Belzunce pour la prostitution un peu de bas étage, et à l'Opéra pour la prostitution un peu plus chic. Et c'est à ce moment-là où le quartier réservé a commencé à décliner. Également, dit-on, avec la crise de 1929, qui a limité la clientèle du quartier, et la mauvaise réputation, sans doute aussi, qui fait que les gens le fréquentaient de moins en moins, parce que le quartier ne devenait pas de plus en plus dangereux, mais il avait cette réputation qui s'était développée, et on avait de plus en plus peur d'y mettre un pied.
Alors pour terminer l'émission, Martin, on va parler de la fin tragique hein, de ces vieux quartiers autour du vieux port, quai du port, entre quai du port et la rue Caisserie aujourd'hui. Et donc la fin de ce quartier réservé, ça va se passer en janvier et en février 1943. D'abord par l'évacuation des habitants de ce quartier, je crois qu'il y avait près de 20 000 habitants, et ensuite la destruction. Tu peux revenir sur cette date douloureuse, cette année
Bien
douloureuse
sûr.
Pour ces quartiers.
Comme je l'ai dit, l'idée de détruire le vieux quartier était très ancienne. Il y avait déjà, même à la fin des années 30, il y avait un premier plan qui avait été mis en place pour prévoir cette destruction, même si elle devait être progressive normalement. L'idée, c'était d'expulser les habitants petit à petit, les reloger, raser et construire un quartier moderne. Sauf qu'ensuite, les nazis sont arrivés à Marseille. Il y a eu des attentats de la résistance, et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on dit en tout cas, pour réprimer ces attentats, on a essayé de raser les vieux quartiers qui étaient considérés comme un refuge de juifs, de résistants, même si dans les faits, c'était très peu vrai en réalité. Et notamment, en réalité, la mauvaise réputation internationale de ce quartier a poussé à sa destruction, parce qu'on sait que l'ordre est venu directement d'Hitler, qui avait connaissance de l'existence du quartier réservé, et qui était l'antithèse de ce que le nazisme pouvait accepter, parce que c'était un quartier très ancien, très cosmopolite, avec, comme ils disaient eux-mêmes, un mélange des races, etc., qui était à l'opposé de ce que le nazisme promouvait. Donc c'était, pour eux, à Marseille, la première chose à faire, mettre fin à ce quartier qui était ce qu'ils appelaient le chancre de l'Europe.
Voilà, je vous propose de plonger dans cet ouvrage extraordinaire. Hein. Enfin, vous avez travaillé, mis beaucoup de votre temps, Martin Hugues. Hein. Donc je rappelle le titre de votre livre, Marseille interdite 1878-1943, histoire du quartier réservé aux éditions de la Manufacture de Livres. Et donc je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois Martin Hugues et merci à Sidi pour la technique. Au revoir et à bientôt.
Merci.